je résume chaque fois, ça c'est l'ancien prof, la situation. La miséricorde, vous avez compris, c'est viscéral en Dieu, il ne peut pas supporter. Il nous a voulu, c'est, si j'osais m'exprimer ainsi, c'est pire qu'une mère. Il nous veut pour faire partager sa vie, alors qu'il n'avait pas besoin de ça. Le péché originel, nous nous écartons de lui. Voilà. Et puis on a vu que donc ce matin, les dangers de ce qui peut se préparer, et ce qui se prépare certainement, du fait que nous n'écoutons pas le Seigneur et nous continuons à en faire suivant notre tête. Et donc avec des références de choses qui sont reconnues par l'Église, et ne serait-ce que Sainte Faustine, le Padre Pio, etc., etc. Alors tout cela, ça nous place devant quand même quelque chose de très grave. Et vous l'avez compris, en ces derniers temps, donc depuis Faustine, et puis ça a été institué par Jean-Paul II, Jésus avait demandé une fête de la miséricorde, c'est fait. La Vierge Marie, dans les dernières apparitions, insiste aussi sur la miséricorde. Et donc Marie est la mère vraiment de la miséricorde. Parce que si Marie avait dit non à l'ange, eh bien, qu'est-ce que se serait-il passé? Donc, Marie est déjà elle-même bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Ben, c'est le mystère de l'Immaculée Conception, confirmé à Lourdes par la Vierge Marie elle-même, à Bernadette. Donc, recevoir la miséricorde de Dieu s'est faite homme, en Jésus, il fallait aussi que cet enfant, cet embryon, croisse dans un être féminin qui soit absolument pur. Donc Marie, elle n'est pas l'Immaculée Conception par ses propres mérites, mais par quelque chose, un don absolument gracieux de Dieu, ce qu'on appelle la grâce. C'est gracieux et gratuit. Gratuitement, le Dieu a préservé cette femme de la faute originelle, et ce qui montre ce que nous aurions dû être sans la faute d'Adam. Des êtres ayant une confiance absolue en Dieu et se laissant guider par Dieu. Et c'est ce qui se passe en Marie. Et donc, bien qu'elle soit issue de parents qui sont marqués comme nous par la faute originelle, elle a été, par un don de Dieu, préservée en vue de l'incarnation de son Fils. Donc, elle est bénéficiaire de la miséricorde par avance. On en a eu conscience de ça, de Marie, mère de la miséricorde, très tôt, parce que les hymnes mariales que nous chantons, ces hymnes mariales qui étaient en latin, qui datent du Moyen-Âge, par exemple, Salve Regina, Salve Regina, Mater Misericordiae, vous voyez, mère de miséricorde. Caducedo, passare, a te clamamus, exules filie, a Jesus tiramus, gementes et plantes, in lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, filos tuos, misericordes oculos. Voilà. Hein? Alors, là, en français, nous te saluons, reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir, nous te saluons. Enfant d'Ève, vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Toi, notre avocate, tourne-nous vers tes yeux de miséricorde. Et après l'exil de cette vie, montre-nous Jésus, le fruit de ton amour. Ô Mère clémente, ô Mère très bonne, Mère très douce, Vierge Marie. Voilà. Et la plus ancienne, le plus ancien chant marial, c'est le Subtout. Sous votre protection. Par exemple, au Carmel, nous, à la fin de chaque heure d'oraison est introduite par les prières que nous donne de l'Esprit. Et la fin de l'oraison, on se place sous la protection de Marie et en récitant, c'est la plus ancienne prière mariale connue, donc le Subtout, sous votre protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, accueillez les prières que nous vous adressons dans le besoin et délivrez-nous de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Mais dans sa traduction littérale latine, c'est sous votre miséricorde, nous nous réfugions. Voilà, et en latin, ça se dit Deus Plancnia. Et c'est des termes aussi qu'on retrouve en médecine, les paroisses plancniques, voilà, etc. Et donc on a pris conscience de ça, très tôt dans les temps de l'Église, que Marie était la mère de la miséricorde et qu'elle-même était miséricordieuse. Alors, face à ces choses que je vous ai annoncées ce matin, c'est dur, hein, je sais, mais enfin bon, il faut le dire quand même. Voyez-vous, nous avons tout intérêt à nous blottir contre une mère aussi aimante que Marie. Il va en découler beaucoup de choses si on se blottit en Marie. On est contre elle, elle peut nous instruire, nous découvrir les mouvements de son cœur, et même ça peut aller jusqu'à une union au cœur de Marie. Être unis au cœur de Marie pour partager, si vous voulez, tous les mouvements qu'elle a eus avec son fils. Alors, comment, et Marie, à ce moment-là, va pouvoir se faire notre éducatrice. Elle est notre mère. Elle est notre mère dans le mystère de la grâce. C'est par elle, donc, le Verbe s'incarne et qu'il peut nous effet miséricorde et que nous obtenons la grâce. En Marie, donc, on s'aperçoit, c'est quelque chose de très étonnant, elle est l'Immaculée Conception. Mais ce n'est pas parce qu'elle est l'Immaculée Conception qu'elle sait tout. Hein, comme disait une sainte, Marie, la dernière des créatures de Dieu. Nous en faisons la première. Elle est la dernière. Et donc celui qui est dernier a besoin sans cesse d'être instruit. Et vous avez un exemple extraordinaire qui, au premier abord, peut paraître très dur. C'est Marie, avec Joseph, le recouvrement de Jésus au temple. Alors évidemment, quoi, un gamin qui était si mignon, c'est le cas de le dire, si obéissant, et puis pof, il disparaît, et au lieu de dire « pardon, j'aurais dû vous écouter », qu'est-ce qu'il leur dit? Nous, on s'attendrait à ça. Il leur dit « mais ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ?» Et donc vous voyez que par là, et après, la suite, c'est que ben, il rentre à Nazareth, et il leur était soumis. Et ensuite, il est dit « et Marie méditait tous ces événements dans son cœur ». Donc, ça veut dire, elle les médite, elle les développe, elle les déploie, parce qu'elle comprend ce mystère. Elle a beau savoir que c'est par elle que s'incarne le Verbe, et elle est quand même mère, et elle a besoin de... Et donc, vous voyez comment Jésus, même enfant, dès qu'il a l'âge de raison, fait l'éducation de sa mère. Et si nous nous plaçons, nous nous blottissons contre le cœur de la mère, eh bien, nous bénéficierons de ce cœur tendre de certains moments, et en plus, comme elle, eh bien, nous aurons des moments un peu des électrochocs, des choses qui nous feront souffrir, en dehors du mystère de la passion du Christ, vers lequel elle nous entraîne, nous aussi. Elle veut nous faire rentrer, partager avec son Fils le mystère de la rédemption, ou comme elle, à travers ce percement du cœur, comme il y est indiqué par le vieillard Siméon au temple. Et donc, avant de rentrer là, nous aurons plusieurs électrochocs où nous découvrirons chaque fois beaucoup plus profondément qui est le Rédempteur, qui est ce Dieu de miséricorde, qui est Jésus. Et donc, voilà, elle va nous entraîner en fait. Donc, nous avons tout intérêt à nous blottir dans le cœur de Marie. Et c'est ce que disait... toujours Faustine. Depuis ce temps-là, je vis sous la protection virginale de Marie, qui me garde et m'édifie. Je suis bien tranquille de mon cœur immaculé, car je suis si faible et si expérimenté que je me blottis dans son cœur comme un petit enfant. Voilà, par exemple, Élisabeth de la Trinité dit dans sa fameuse prière ça y est, j'ai un coup. l'avait sur le bout de la langue et puis ça s'est envolé avec la dent. Oui, je veux me faire enseignable, dit-elle au Christ, afin d'apprendre tout de vous. Mais on pourrait aussi le dire de Marie. Je veux me blottir contre vous afin d'apprendre tout de vous. D'autant plus que vous l'avez compris, en ces temps qui sont les derniers, Jésus aime tellement sa mère qu'il, pour finir, il lui confie tout. Comprenez ce qui peut nous aider grandement, c'est d'être, donc nous blottir contre Marie. Et si on est blotti contre Marie, eh bien nous aurons un attrait par cette mère, un attrait à nous tenir dans l'imitation de Marie. Et nous le verrons ensuite beaucoup plus profondément dans une union au mouvement de son cœur. Alors, ce qui caractérise Marie et l'Immaculée Conception, on en avait parlé les années précédentes, c'est que la véritable vêture de Marie, bon, évidemment, on s'en doute que par la décence, elle a des fringues, mais la véritable vêture de Marie, c'est l'ombre de l'Esprit. C'est-à-dire, dès l'Annonciation, l'ange Gabriel, il dit qu'elle sera prise sous l'ombre de l'Esprit. C'est-à-dire, Dieu étant lumière, c'est être pris vraiment sous cette lumière qui est protectrice comme une ombre de Dieu. Elle est sous l'ombre, sous la lumière, sous le manteau protecteur de l'Esprit Saint. Et si nous nous blottissons contre Marie, forcément, nous serons pris sous ce manteau spirituel qui est le manteau de Marie. Symboliquement représenté par les images traditionnelles depuis le Moyen-Âge de Notre-Dame du Mont-Carmel, les vierges au manteau. Elles ont un manteau qui est blanc. Idéalement, il faudrait qu'il soit lumineux, puisque c'est le soleil de gloire, la lumière née de la lumière, vrai Dieu née du vrai Dieu, qui par son esprit l'enveloppe. Et nous sommes pris sous ce manteau protecteur si nous laissons, nous accueillons Marie et nous vivons véritablement contre elle, dans son intimité. Alors évidemment, j'ai pris cette fois-ci beaucoup de choses chez Faustine. Marie, très sainte mère de Dieu, ma mère, vous l'êtes maintenant tout particulièrement, puisque votre fils bien-aimé est mon époux. Nous sommes donc tous deux vos enfants, Jésus et Faustine. Par égard pour votre fils, vous devez m'aimer. Marie, ma mère bien-aimée, dirigez ma vie intérieure pour qu'elle soit agréable à votre fils. Voilà, se laisser vraiment diriger par Marie. Et vous voyez, parfois même dans une vie, à certains stades de la vie intérieure, les personnes peuvent avoir peur du Christ. Mais on n'a pas peur d'une maman. Et ce que dit la Vierge à Faustine, sa vie doit être semblable à la mienne, douce, cachée, union incessante à Dieu, intercéder pour l'humanité et préparer le monde à la seconde venue de Dieu. Alors, vous voyez, je trouve que ça nous engage, nous sommes dans une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est assez édulcorée parce que nous la partageons. C'est Marie qui l'a pris, Jésus et Marie qui le portent en premier. Et vous voyez, nous sommes pris dans cette même aventure, l'aventure de la rédemption de l'homme, de l'accès à la vie éternelle. Et vous voyez, donc, Marie va nous y aider et surtout ne jamais quitter cette ombre de l'esprit sous laquelle elle nous maintient si nous le désirons. ça va nous ouvrir aussi, qu'on soit homme ou femme, au mystère de la fécondité. Bon, la femme est conçue pour porter la vie, l'homme pour donner, mais celui qui se donne au Christ et qui se donne surtout à la mère rentre dans ce mystère de la maternité ecclésiale et a de plus en plus donc le souci d'engendrer les âmes, de faire que les personnes arrivent à saisir qu'il faut qu'ils soient unis à Marie, il faut qu'ils soient disponibles pour toute l'œuvre que Dieu veut réaliser en eux. Et qu'il y ait par conséquent, puisque le Christ est notre frère, il y ait beaucoup de frères du Christ, et donc que nous engendrions nous aussi, que nous devenions et que nous engendrions de nouveaux Christ. Et on trouve cela dans la prière d'Élisabeth. Elle demande justement à l'Esprit, vous voyez, en quelque sorte, l'Esprit c'est la semence divine. Et c'est une semence qui est d'une fécondité sans limite, et c'est une semence aussi qui donne la pureté, qui donne la virginité. Je vous en avais parlé l'année dernière, la virginité n'est pas quelque chose à garder, la virginité est toujours devant nous, c'est quelque chose à recevoir. Et la Vierge Marie est beaucoup plus vierge par la réception constante de l'Esprit en elle, qui la féconde sans cesse, que par le fait qu'elle a gardé sa virginité physique. Que le mystère de la virginité est extrêmement passionnant, parce que c'est quelque chose qui nous déborde de toutes parts. Quoi. C'est Dieu qui est vierge. Hein, je vous avais cité ça, c'est de Saint Grégoire de Nazianze, c'est au IVe siècle, qui dit audacieusement, la première Vierge, ce n'est pas la Vierge Marie, c'est la Trinité. Et donc Marie tire la profondeur et la beauté de sa virginité, de la Trinité, qui lui est communiquée par cette semence de pureté qui est l'Esprit Saint. Donc si nous sommes pris, si nous accueillons son invitation à être, si nous nous lotissons contre elle, l'Esprit aussi nous fera découvrir cette pureté du cœur, hein, et cette fécondité. Parce que virginité et fécondité sont une même chose en Dieu. Ça paraît idiot si je dis ça concernant la chair, mais en Dieu c'est une réalité profonde. Et donc nous allons vers une pureté de plus en plus grande et vers une fécondité de plus en plus grande. Exemple, je suis vierge et pourtant des âmes je suis mère, de virginale fleur qui sauve les pécheurs, Jésus rappelle-toi. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc, voilà, c'est dans ces derniers temps, cette invitation par Marie, sous Marie, sous sa protection, blottie contre elle. Vous voyez, on rentre petit à petit dans son mystère et on se trouve au cœur du mystère de la fécondité ecclésiale, de la fécondité de l'Église. Je reviens sur cette parole provocatrice. La Vierge Marie, la dernière des créatures de Dieu, la plus petite. Voilà pourquoi, justement, aussi, ça contribue à la puissance de sa virginité. C'est parce que, n'ayant rien, elle reçoit tout. Nous, étant donné qu'on a quelque chose, on ne peut pas tout recevoir. Et cette attitude de réceptivité parce qu'on n'a rien, c'est l'humilité. Et donc, Marie va nous pousser à l'humilité authentique, qui fait que, dépouillés de nous-mêmes, Dieu a la capacité d'agir en nous et de nous communiquer ce qu'il est et de son esprit qui va nous féconder et nous permettre d'engendrer des âmes, parfois sans qu'on le sache. Hein. On ne tient pas incarné en faisant des barres. Et par exemple, si vous prenez le Magnificat, hein, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu. Mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureux. » Bon, là aussi, méfions-nous de la fausse humilité. Vous avez la fausse humilité, on dit, oh, ben moi je suis nul, je suis rien. Voilà, c'est incitatif de faire de claques. Ça, c'est pas ça l'humilité. Et l'humilité et la vérité se rencontrent. Et l'amour, c'est cette attitude qui est réceptive de ce que Dieu veut faire en lui. Jean-Paul II, dans l'encyclique Redemptoris Mater, disait, la mère du Christ est en effet glorifiée comme reine de l'univers. Aujourd'hui même, hein. Celle qui s'est déclarée servante du Seigneur à l'Annonciation est restée durant toute sa vie terrestre fidèle à ce que ce nom exprime. Se confirmant ainsi véritable disciple du Christ qui avait fortement souligné le caractère de service de sa mission. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est pourquoi Marie est devenue la première de ceux qui, servant le Christ également dans les autres, conduisent leurs frères dans l'humilité et la patience, jusqu'au roi dont on peut dire que le servir, c'est régner. Et elle a pleinement atteint cet état de liberté royale qui est propre aux disciples du Christ, servir, ce que veut dire régner. Jean-Paul. Avec Faustine, le Seigneur a donné un moyen. Nous ne l'avons pas récité encore, je pense que ce soir, on pourrait prendre un petit temps après le repas, puisque on va arriver de s'entarder. C'est le chapelet de la Miséricorde. Un certain nombre d'entre vous doivent le connaître. Et ce que Jésus disait à Faustine, soudain, en disant ce chapelet de la Miséricorde, j'entendis une voix. Ô quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet, les profondeurs de ma miséricorde sont émues pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille, parle au monde de ma miséricorde, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde, c'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la miséricorde, à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux, ô âmes humaines, où chercherez-vous refuge au jour de la colère de Dieu? Fuyez maintenant vers la source de la miséricorde. Et quel grand nombre d'âmes je vois, elles ont adoré la miséricorde divine et vont chanter l'hymne de gloire dans l'éternité. Et donc, voilà, hein, Marie nous y accompagne. Bon, vous voyez que, entre autres, chez nos frères protestants, et chez les calvinistes, hein, particulièrement, la Vierge Marie ne demande pas de culte, hein, on a voulu revenir vers le Christ. Ce qui est différent chez les luthériens. J'ai fait cette expérience en Suisse. Il y a beaucoup de dames luthériennes qui portent la médaille miraculeuse de la rue du Bac. Et je la confie à votre prière, j'espère qu'elle n'est pas décédée. L'autre jour, vous pouvez. Jeune Suissesse que je connaissais, qui justement fait partie du tiers ordre carmélitain, ça pose des problèmes après. Vient me voir, 35-40 ans, Claire, et qui me dit, mon père, j'en ai plus que pour quelques semaines à vivre, je suis condamné par la médecine pour un cancer, et je veux pas mourir. Alors, ben, j'ai beaucoup prié pour elle cet été. Je lui ai donné, ça s'appelle le sacrement des malades, l'extrême onction. Et la dernière nouvelle que j'ai eue, elle est montée avec son mari rue du Bac. Voilà, alors le peu, j'ai oublié le chargeur du téléphone, mais le peu que j'ai prêtre se téléphonerait depuis la pelouse du sanctuaire pour lui dire ben voilà Marie, on prie pour vous, Claire, on prie pour vous. Hein. Alors, oui, quand on est ainsi, on se prive, quand on refuse Marie, on se prive d'une mère, et donc de quelque chose qui conduit, à, je vous disais, à une forme d'union à Marie. C'est pas elle qui veut s'unir à nous, c'est le Christ qui propose à certaines âmes de s'unir à sa mère, pour partager vraiment, de façon privilégiée, la vie de sa mère, et être comme... je vous parlais d'une incarnation du Verbe, dans notre âme, comme une incarnation à nouveau de Marie dans notre âme. C'est de chez nous, hein. Alors là, c'est le bienheureux Titus Brandsma, mort à Dachau, carme hollandais. La dévotion à Marie qui est préférable de présenter comme une imitation de Marie. S'approfondissant en une union progressive avec elle. On ne peut pas penser imitation sans penser à union, pas plus qu'on ne peut penser à union sans penser à imitation. Voilà, de la même façon que certains saints veulent vivre profondément dans le cœur du Christ, on parlait de l'échange des cœurs, eh bien, Marie aussi, si le Fils lui demande, veut nous faire vivre véritablement, en union avec elle, tout ce qu'elle vit dans la profondeur de son cœur. Vous voyez, ce n'est plus à ce moment-là un aspect dévotionnel extérieur, parce que parfois on peut rentrer dans des dévotions à Marie, c'est très bien, mais c'est encore plus profond de rentrer dans les mouvements de son cœur et de se laisser prendre vraiment par tout ce qu'elle vit. Et à ce moment-là, on devient d'autres maris qui, reproduisant sa vie, entrent aussi dans la profondeur de cette fécondité. Au XVIIe siècle, une tertiaire, c'est-à-dire une laïque de la vie du Carmel, en Belgique, Marie de Sainte-Thérèse, disait... Parfois, il me semble être prise et enfermée dans le cœur très pur de Marie, très aimable et brûlant. J'ai oublié le « dans ». Et je suis comme enivrée et folle d'amour pour elle, en même temps que pour Dieu, me répandant toute dans cette union. Et ainsi est réalisée une vie divine, à la fois double et sainte, qui constitue une manière pure, noble, élevée, parfaite d'aimer notre Sainte Mère, encore que bien peu connaissent cette vie par expérience. Et voyez, toujours le même Titus Brandsma, la mort à Dachau. Nous devons manifestement devenir nous-mêmes d'autres maris. Nous devons laisser Marie vivre en nous. Et comme il le dit, Dieu doit être conçu en nous, par imitation et union à Marie, nous devons le mettre au monde. Voilà. Alors je termine par une citation toujours de Faustine, le 25 mars, j'ai pas marqué l'année, pour la fête de l'Annonciation. Pendant la méditation du matin, la présence de Dieu m'a enveloppé d'une façon spéciale, en voyant la grandeur incommensurable de Dieu et en même temps son abaissement jusqu'à la créature. Soudain, je vis la Mère de Dieu qui me dit que l'âme qui suit fidèlement le souffle de la grâce est agréable à Dieu. J'ai donné au monde le Sauveur. Et toi, tu devras parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à la seconde venue de celui qui viendra, non comme Sauveur miséricordieux, mais comme juge. Oh, comme ce jour-là est terrible!
Le jour de la justice a été décidé, le jour de la colère de Dieu. Les anges tremblent devant lui, parlent aux âmes de cette grande miséricorde, tant que c'est le temps de la pitié. Si tu te tais maintenant, tu répondras pour cela en ce jour terrible, pour un grand nombre d'âmes. N'aie peur de rien, sois fidèle jusqu'à la fin, j'ai compassion de toi. Et donc, voyez-vous, ça sera d'autant plus facile que nous sommes unis à cette mère. Nous sommes pris dans tous les mouvements de son cœur et dans cette maternité miséricordieuse et spirituelle qui n'est pas liée aux 46 chromosomes. Alors du coup, tiens, on peut dire le Subtuum. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Accueillez les prières que nous vous adressons dans le besoin et délivrez-nous de tout danger, Vierge, glorieuse et bénie.